VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h, temps universel, dans 5 minutes, l'Amérique et vous avec John Lindon, mais tout d'abord les nouvelles. New York, le prochain patron de l'ONU, Antonio Guterres, a affirmé ce lundi que les Nations Unies doivent se préparer à changer. Déclaration faite juste après avoir prêté serment comme 9e secrétaire général de l'organisation internationale. Monsieur Guterres a précisé qu'il est temps pour l'ONU de reconnaître ses insuffisances et de réformer la manière dont elle fonctionne. Et il a recommandé des réformes dans 3 domaines, maintien de la paix, aide au développement durable et gestion. Salwa Jafari nous en dit plus sur le parcours du prochain patron de l'ONU.
À 67 ans, l'ancien Premier ministre du Portugal, haut-commissaire aux réfugiés, sera donc le 9e secrétaire général des Nations Unies. Guterres a une formation d'ingénieur, fervent pratiquant, il entame son parcours politique auprès de mouvements catholiques. C'est la révolution des œillets en 1974 qui met fin à 50 ans de dictature, qui le pousse à s'engager. Il rejoint le Parti socialiste et passe de longues années au Parlement, où il était surnommé « marteau-piqueur parlant ». Sa victoire aux législatives de 1995 le propulse au poste de Premier ministre. Parmi ses décisions les plus marquantes, rejoindre la zone euro. La conjoncture économique difficile au Portugal lui coûte son fauteuil en 2001. En 2005, il devient haut-commissaire aux réfugiés. Il le restera jusqu'en 2015.
En Gambie, le vainqueur de la présidentielle Adama Barrow a exhorté aujourd'hui le président sortant Yahya Jammeh à céder le pouvoir immédiatement. Une délégation de 4 chefs d'État de la CDAO doit arriver demain à Banjul pour dissuader M. Jammeh. Eric Maniracusa.
Le président élu Adama Barrow a estimé que Yahya Jammeh devrait démissionner maintenant. Il a perdu l'élection, nous ne voulons pas perdre de temps, a précisé M. Barrow. Dans un brusque revirement vendredi soir, Yahya Jammeh a réclamé un nouveau vote. Pourtant, il avait, le 2 décembre, reconnu sa défaite. Son parti a annoncé que M. Jammeh va saisir la Cour suprême, mais il devra nommer plusieurs juges pour compléter la Cour, un pouvoir que l'opposition ne reconnaît pas au président sortant. La libérienne Ellen Johnson Sirleaf, présidente en exercice de la CDAO, se rend demain à Banjul à la tête d'une délégation avec le Nigérien Muhammadu Buhari, Sierra Leone Ernest Bai Koroma et le Ghanéen John Dramani Mahama. Ils vont tenter de persuader Yahya Jammeh à transmettre le pouvoir au président élu Adama Barrow.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Politique au Gabon, la mission d'observation de l'Union européenne a rendu public son rapport final sur le scrutin présidentiel du mois d'août dans le pays. Les observateurs européens mettent en cause la crédibilité de la réélection du président Ali Bongo Ondimba, Abdourahmane Dia.
Le rapport final des observateurs européens a formulé 11 recommandations pour corriger ce qu'ils qualifient d'anomalie survenue lors du scrutin du 27 août dernier. La mission européenne, qui avait déjà été très critique envers tout le processus électoral, suggère une garantie à l'accès non interrompu aux réseaux Internet et aux réseaux sociaux, y compris pendant la période électorale et post-électorale. La mission recommande aussi des changements pour garantir l'indépendance de la justice. Enfin, les observateurs s'interrogent sur le taux de participation très élevé dans la province du Haut-Ogooué, qui est de plus de 99% selon les chiffres officiels, alors que la moyenne nationale est à 54% sans les votes dans le fief du président Bongo. Cependant, la mission n'a pas recommandé de sanctions contre le régime d'Ali Bongo Ondimba, comme le souhaitait l'opposant Jean Ping, mais demande plutôt l'ouverture d'une enquête sur les violences post-électorales qui ont fait des dizaines de morts.
Politique en RDC pour terminer, l'Union européenne a décidé ce lundi d'infliger des sanctions individuelles à 7 hauts responsables de l'appareil sécuritaire de la République démocratique du Congo accusés de violence et elle menace d'étendre encore plus cette liste en cas d'obstruction du processus électoral. Le gouvernement américain a lui aussi décrété aujourd'hui des sanctions financières contre deux hauts responsables gouvernementaux congolais accusés de museler l'opposition et de retarder les progrès politiques dans le pays en recourant parfois à la violence. Ces sanctions visent le ministre de l'Intérieur Evariste Boshab et le chef de l'Agence nationale de renseignement Caleb Mutondo, selon un communiqué du Trésor américain. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Bonne soirée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. I have
have a dream.
It's one small step for man.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver comme toutes les semaines dans l'Amérique et vous sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis. Au micro de présentation, John Linden, Sanoussi Diallo et Fred assurent la production. Mise en onde de Souleyman Tarawale. Installez-vous confortablement et on se retrouve juste après. Vous êtes sur VOA Afrique, vous écoutez l'Amérique et vous. Cette semaine, le président élu des États-Unis, Donald Trump, a nommé dans son cabinet un troisième général à la retraite, John Kelly, ministre de la Sécurité intérieure. Avant lui, Donald Trump avait nommé un autre général à la retraite, Michael Flynn, comme son conseiller à la sécurité nationale, un poste influent sur le plan international et les questions de défense. Trump a aussi nommé le général à la retraite James Mattis comme secrétaire à la défense. Un autre général, David Petraeus, est toujours dans la course pour le poste de secrétaire d'État. Alors, question, que pensez-vous de la nomination par Donald Trump des généraux dans son cabinet? Et de façon générale, que pensez-vous des nominations de son cabinet? Nous vous donnons la parole dans l'Amérique et vous faites-nous part de vos réactions sur Facebook ou en direct au 001-202-619-3140. Et pour nous accompagner dans cette émission ce soir, nous avons Brett Bruen, président de Global Situation Room. Brett, bonsoir. Brett, bonsoir.
Oui, bonsoir. Comment voilà. Allez-vous?
Je vais très bien. Merci, Brett, de rester avec nous. On va accueillir les autres invités. Comme invité, on a également le professeur Ahmad Mahamad Hassan depuis le Tchad. Professeur, bonsoir.
Bonsoir.
Merci pour votre disponibilité. L'ambassadeur Kenton Kate est également avec nous. Excellence, bonsoir.
Bonsoir.
Merci pour votre disponibilité. On va commencer tout de suite avec vous, mais dans le studio, j'ai également mon collègue Bagassi Koura. Bonsoir, Bagassi.
Oui, bonsoir John, bonsoir à tous.
Voilà, donc première question à nos invités. Je vais commencer par l'ambassadeur Kenton Kate. Déjà, quel est votre avis sur toutes ces nominations qui sont faites en ce moment par le président élu Donald Trump?
Bon, d'abord, il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de surprises. Il a nommé quelques des personnes qui partagent ses vues. Et il est clair qu'il veut avoir des hommes à côté qui partagent ses vues, surtout sur la politique domestique des États-Unis. Et la question qui se lève maintenant, c'est à mon avis c'est la question des affaires internationales.
Voilà, vous parlez d'affaires internationales. Nos auditeurs, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous avez été ambassadeur et donc vous connaissez un peu la diplomatie. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel pays vous avez travaillé, pour ceux qui ne vous connaissent pas?
Alors, j'ai passé la plupart de ma carrière dans les pays arabes. Le dernier était l'ambassadeur des États-Unis au Qatar.
Voilà. Merci beaucoup, Excellence. Brad, vous avez suivi également ces nominations. Déjà, quelle est l'analyse que vous faites des premiers noms qui sortent, qui feront partie de ce cabinet?
Oui, l'ambassadeur a raison. Il n'y a pas vraiment de surprise, mais ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de préoccupation, surtout au niveau de la diplomatie, parce que j'ai travaillé dans le Conseil de sécurité nationale et j'ai vécu des expériences dans lesquelles il y en a des perspectives très différentes entre les militaires et les diplomates. Et à mon avis, il faut avoir